L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Vous recevez ce matin le député Renaissance des Yvelines Charles Rodouel, membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale et qui est actuellement en Nouvelle-Calédonie pour constater la situation de l'économie.
Monsieur le député, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Eh bien, merci de l'avoir accepté puisque c'est votre premier déplacement en Nouvelle-Calédonie. Tout de suite, c'est quoi les raisons de ce déplacement ?
La raison de mon déplacement parmi d'autres collègues de manière transpartisane de la métropole, c'est de signifier une chose, c'est que la métropole se tient aux côtés des Calédoniens, de la Nouvelle-Calédonie, dans le fait de retrouver sa stabilité politique et dans la reconstruction de son économie. Vous savez, l'État et la métropole sont parfaitement conscients d'avoir manqué à leur devoir d'assurer la sécurité des Calédoniens lors des émeutes, avec des pillards, des criminels qui ont voulu passer à tabac des milliers de Calédoniens qui ont tout simplement exprimé à travers 3 référendums leur attachement à la France et à leur avenir commun avec nous. Et la raison de ma venue, notamment d'un point de vue économique, c'est de traiter une partie des dossiers sur lesquels la métropole peut aider la Nouvelle-Calédonie à s'en sortir pour rebâtir son économie.
Alors justement, vous y faisiez allusion depuis votre arrivée, vous avez eu de nombreuses rencontres, vous êtes rendu sur le terrain également, notamment sur le site d'entreprise qui avait été détruite pendant les violences insurrectionnelles. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de violence et l'état dans lequel vous avez vu ces entreprises? Vous avez également rencontré les chefs d'entreprise.
Absolument. Et hier, j'étais avec également les voisins vigilants et avec les gendarmes, il y a 2 jours également. Tout un tas de citoyens qui étaient venus de métropole depuis de manière assez récente ou qui sont calédoniens depuis 7-8 générations, qui ont été littéralement traumatisés par ces actes profondément antidémocratiques qui, oui, sont instrumentalisés en métropole par des forces politiques qui s'estiment démocratiques mais qui n'ont rien de démocratique, je pense notamment à la France insoumise. Et quand je me suis rendu sur ces sites, je me suis dit tout simplement qu'il y avait urgence à agir en lien entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Ça se passe par des actes très concrets. Le lancement du fonds garanti émeute garanti par le ministère de l'économie et des finances pour pouvoir assurer et surtout réassurer des entreprises et des commerçants, des usines qui doivent être rebâties, reconstruites. Cela passe par le maintien des fonds qui ont été alloués à la Nouvelle-Calédonie pour assurer la reconstruction de ces infrastructures publiques de plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut savoir que ces fonds ont été prélevés sur d'autres fonds métropolitains. Je prends un exemple parmi d'autres. Il y a 2 écoles de ma circonscription dans les Yvelines qui devaient être rénovées et qui ne le seront pas ou qui le seront plus tard parce que ce sont des fonds qui ont été alloués à la Nouvelle-Calédonie. Et les Calédoniens doivent savoir que les métropolitains sont parfaitement solidaires par rapport à ce qu'ils ont connu, que tout le monde est en plein soutien pour assurer, un, la sécurité des Calédoniens à travers les 20 escadrons qui sont actuellement déployés en Nouvelle-Calédonie et pour assurer la reconstruction de l'île, notamment à travers ces fonds.
Même s'ils ont l'impression parfois que l'État pose des conditions avant d'aider la Nouvelle-Calédonie, il y a eu des conditions pour le versement du prêt garanti par l'État. C'est des choses normales, il faut que tenir compte du besoin de réforme de l'économie calédonienne.
Je crois qu'il faut en tenir compte, mais de manière réaliste. Je prends un exemple lors du budget initial, la copie initiale du budget au niveau étatique que nous avons reçu. Il y avait une chute de la défiscalisation, qui pourtant est un levier absolument majeur pour la reconstruction de l'économie calédonienne. Mais ça, c'est pas acceptable. Quand tu vois qu'il y avait une chute de 11 points qui était prévue dans la défisque, eh ben nous, ce qu'on va faire, et je peux vous dire que vous pouvez compter sur vos élus qui se tiennent vraiment à vos côtés, et je vois la manière dont ils se démènent, je pense à Nicolas Metzdor, je pense à Sonia Baquès notamment, et à leurs équipes, nous allons nous battre pour que cette défiscalisation soit tenue à son rang maximal pour permettre la reconstruction économique de l'île. Voilà l'un des exemples très concrets qui a rendu cette visite extrêmement utile pour pouvoir créer le lien entre vous et nous, entre Calédoniens et Métropolitains, pour assurer la stabilité et la reconstruction économique de l'île.
Vous êtes également intéressé très directement à la filière nickel, hein, je crois. Vous êtes rendu sur des sites miniers. C'est une filière essentielle pour la Calédonie qui est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un espoir de la relancer? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que c'est aussi l'un des engagements de l'État?
Il y a 2 choses là-dessus. Première chose, oui, la filière est résiliente. Elle n'est pas morte. Parce que sinon, ces usines seraient toutes les 3 complètement à l'arrêt. Il y aurait des milliers d'emplois qui auraient été détruits en plus. Comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays, parce qu'on a un pays, notamment l'Indonésie, qui pratique une politique extrêmement agressive sur le nickel. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ces usines, elles ont des difficultés économiques, mais il y en a 2 sur 3 qui ne sont pas à l'arrêt et qui continuent de fonctionner et qui ont un modèle économique qui peut lui permettre de continuer. Mais ça demande des changements et des décisions radicales que d'ailleurs les Calédoniens appellent de leur vœu depuis très longtemps. Je pense à une parmi tant d'autres, c'est la question énergétique. Quand on voit par exemple que l'une de ces usines en Nouvelle-Calédonie paye son énergie trois fois le prix que les usines concurrentes payent en Indonésie, on voit bien qu'il y a des changements majeurs à apporter. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici et qu'il y a tant de personnes en métropole mobilisées sur cette question. Ce qui aurait été game changer, ce qui aurait vachement bien marché, c'est le pacte nickel.
Il a été refusé par une partie des Calédoniens, il n'a pas été adopté.
Absolument. Ce n'est pas à moi de juger de la décision politique de chaque force politique calédonienne. Ce que je constate simplement d'un point de vue métropolitain, c'est que ce pacte aurait permis de relancer massivement la filière. Et c'est la raison pour laquelle je comprends tout à fait qu'il y ait une partie des forces calédoniennes qui ait soutenu ce pacte nickel. Je pense que c'est ce type de pacte qu'il faut remettre sur la table pour pouvoir relancer la filière.
Le nickel calédonien a de l'avenir encore, on dit souvent, oui. On parle déjà de l'après-nickel. Ça reste une ressource stratégique et essentielle pour le développement économique de la Calédonie.
Absolument majeur, mais ça n'empêche pas non plus de diversifier son économie. Quand vous rendez à l'île des Pins, sur la côte est-ouest de la côte oubliée jusqu'à Kumak, voire sur Ouvéa, les îles Loyauté, on voit par exemple, parmi tant d'autres secteurs de l'économie, qu'il y a un potentiel mais mondial en matière de tourisme très 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 haut de gamme. C'est la raison pour laquelle nous, d'un point de vue métropolitain, nous souhaitons accompagner la Nouvelle-Calédonie vers la stabilisation de sa vie politique. La stabilité politique est un prérequis fondamental pour la relance de l'activité économique. C'est ce que tous les acteurs que j'ai rencontrés me disent. Et croyez-moi, nous ferons notre part du travail pour adopter au Congrès, lorsqu'il sera présenté, le projet de loi constitutionnelle pour avaliser les accords de Bougival.
L'accord de Bougival, vous avez suivi le processus, bien sûr. On est sûr d'une majorité aujourd'hui pour l'adopter aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
On se bat pour que ce soit le cas.
Tous les groupes ne soutiennent pas.
Le bloc central et les Républicains soutiennent cet accord. Ils le soutiennent et ils se démènent, notamment grâce à vos élus, ceux que j'ai cités, Nicolas Metzdorf, Sonia Baquès, notamment, se battent nuit et jour pour pouvoir faire adopter cet accord. Maintenant, moi, je prends les autres partis à responsabilité. Moi, j'ai halluciné quand j'ai entendu Marine Le Pen dans son discours qu'elle a prononcé ici il y a quelques mois. Et je pense que le RN a fait une erreur historique. Ils ont le moyen de réparer cette erreur historique en votant pour les accords de Bougival. Quand je regarde les socialistes qui se sont empêtrés dans une alliance des contraires avec la France insoumise, certains reçoivent même Christian Théin comme héros démocratique dans nos instances parlementaires, alors que cet homme est tout simplement tout l'inverse, et nous en avons conscience, on dit au Parti socialiste, ne commettez pas ce type d'erreur historique. Vous êtes un parti de gouvernement, vous êtes un parti qui a des responsabilités éminentes dans ce pays, il faut vous aussi que vous souteniez les accords de Bougival pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d'avoir de la stabilité politique et une visibilité qui sert l'ensemble des Calédoniens. Et nous serons très fermes sur ces positions, et je crois que oui, je suis optimiste sur ce sujet, nous pouvons dégager un accord à 3/5 pour adopter les accords de Bougival.
Mais pratiquement, il y a une question, il y a un problème de calendrier également, et vous le savez bien, d'ores et déjà, le Sénat ne peut pas examiner dans les médias le projet de loi organique pour le report des élections provinciales tant que le gouvernement Le Cornu n'est pas constitué. Alors bien sûr, la Calédonie n'est pas le seul dossier à prendre en compte, mais est-ce que la métropole, l'État ont conscience de ce problème de calendrier qui peut retarder les choses en Nouvelle-Calédonie?
Oui, ils en ont conscience, et notamment et le président de la République et le Premier ministre. Et je pense que les Calédoniens connaissent l'engagement d'Emmanuel Macron et de Sébastien Le Cornu en faveur de la Calédonie française et en faveur de la stabilité politique sur l'archipel. On a bien sûr conscience de l'enjeu extrême de ces enjeux politiques pour l'archipel. Et d'ailleurs, nos ennemis politiques en ont conscience aussi. Moi, quand je vois Bastien Lachaud et Mathilde Panot faire le tour des sections CCAT, j'ai envie de dire une chose aux indépendantistes. Je respecte leur combat, j'ai un avis évidemment complètement différent. J'ai une alerte à leur envoyer. La France insoumise vous instrumentalise. La méthode qu'ils emploient ici avec vous est la même que la méthode qu'il y a en métropole. L'enjeu pour la France insoumise, ce n'est pas vous, les indépendantistes, c'est de déstabiliser l'État en métropole. Et tout combat qu'ils peuvent instrumentaliser, ils l'instrumentaliseront. Ils n'en ont rien à faire de vous. Leur seul objectif, c'est de renverser la République en métropole, et la République donc ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes mobilisés. Moi, j'ai rencontré l'ensemble des forces politiques qui voulaient bien me rencontrer, avec des avis différents. Nous, notre objectif en tant que métropolitain, à l'inverse, le bloc central, c'est d'avaliser un accord qui a été défini entre Calédoniens, entre loyalistes et indépendantistes. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et c'est ce que nous constatons. Et nous, nous n'avons pas de jugement à porter. Notre seul enjeu, c'est de soutenir un accord qui a été avalisé par ces forces politiques-là pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire dans un avenir commun avec la France, qui est notre patrie à tous.
L'un des faits d'actualité de ces derniers jours, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui était saisi sur le gel du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Il a estimé que c'était une disposition conforme à la Constitution parce que l'accord de Nouméa est constitutionnalisé. Ça heurte un certain nombre de Calédoniens, vous le comprenez ?
Ah ben je le comprends à 100%. Je ne comprends pas comment, dans une démocratie comme la France au XXIe siècle, il y ait des gens, d'ailleurs, que j'ai rencontrés depuis une semaine ici, qui ne puissent pas voter à des élections. Je ne comprends que lorsqu'ils sont français. Je ne comprends pas cette situation. Je la comprends d'un point de vue juridique, historique, mais d'un point de vue purement démocratique, ça pose évidemment des incompréhensions légitimes. Donc cette décision, elle pose une problématique démocratique qui peut être résolue par l'adoption de l'accord de Bougival. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me bats à l'échelle de la métropole avec vos représentants et avec les représentants de l'ensemble du Parlement français pour faire adopter cet accord.
Après 16 jours, parce que vous quittez l'Académie ce soir. Hein.
Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir rester 6, 9, 12 mois, voire années, parce que le voyage fut trop court. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que je reviendrai et j'espère assez rapidement.
Quels sont les dossiers essentiels que vous allez porter ? En quoi est-ce que vous allez vous faire le porte-parole, entre guillemets, des Calédoniens de retour en métropole ?
Je pense qu'il y a un énorme enjeu déjà d'acculturation, de connaissance de les problématiques calédoniennes quand vous êtes en métropole. On a nécessairement, on est à 20 000 km d'ici, un miroir déformant de certains enjeux auxquels vous avez été confrontés. Je pense qu'il y a beaucoup de métropolitains, par exemple, moi le premier avant de venir, qui n'avaient pas conscience de la gravité de ce qu'il s'est passé le 13 mai 2024 et les semaines qui ont suivi. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les métropolitains et l'État se tiennent désormais à vos côtés après avoir manqué leur devoir lors de cette période pour assurer votre sécurité. Et la deuxième des choses, c'est des dossiers très concrets mais extrêmement importants. La question de l'assurance et de la réassurance des entreprises qu'on a évoqué au début de cet entretien. La question de la défiscalisation qui doit être maintenue pour le redressement économique de l'archipel. Les décisions radicales qu'il faut prendre pour la filière nickel pour relancer son activité. Elle est résiliente aujourd'hui, mais elle a besoin de décisions fortes prises par les Calédoniens, par ses entreprises, par la métropole, par les Français eux-mêmes pour pouvoir la relancer. Mes bagages repartent bien pleins, mais l'idée, c'est d'avoir créé ces contacts. Et je peux vous dire que s'il y a bien une chose avec laquelle je repars, c'est l'énergie de me battre avec vous, en tant que métropolitain, avec les Calédoniens, pour pouvoir inscrire notre avenir en commun pour les décennies qui viennent.
La Nouvelle-Calédonie s'intéresse aussi, bien sûr, à l'actualité nationale. Il y avait cette nuit pour nous le discours de Gabriel Attal pour devant les parlementaires, je crois, Renaissance. Ça. Vous avez suivi, c'est pas trop dur aujourd'hui d'être député Renaissance dans le contexte politique national ?
Moi, je fais pas partie de ceux qui crachent sur la main qui m'ont noyé. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi le président de la République en 2017. J'ai cru, et je crois toujours, à une bonne partie du projet politique qu'il a porté. Je crois que le rassemblement des modérés et des républicains à l'époque était une bonne idée. Gabriel Attal a dit dans son discours que la dissolution avait été une erreur majeur. Il a probablement raison parce qu'elle a déstabilisé nos institutions. La deuxième erreur majeure qui a été commise, c'est le Front républicain avec la France insoumise. Moi, j'ai refusé le Front républicain avec la France insoumise sur ma circonscription. J'ai assumé d'aller en triangulaire avec le RN et LFI au deuxième tour parce qu'un Front républicain avec la France insoumise n'est pas un Front républicain. Et donc, je crois que c'est des principes simples, éthiques, démocratiques qui permettent aux citoyens tout simplement en connaissance de cause, de faire des choix démocratiques fondamentaux pour leur avenir. Je crois que ça a été le cas, notamment pour Nicolas Metzdorf, qui est un député qui représente très bien les Calédoniens à l'Assemblée nationale. Et je crois que les Calédoniens peuvent compter sur lui, et compter sur Sonia Backès, compter sur l'ensemble de leurs élus pour se battre pour l'avenir de l'archipel qui doit s'inscrire dans un avenir commun avec la métropole.
Vous n'avez pas d'informations ou d'indiscrétions sur la constitution du futur gouvernement, ni même sur la date à laquelle il sera présenté ?
Malheureusement non, et l'une des raisons pour laquelle, c'est que nous avons 9 heures de décalage avec la métropole, mais je n'ai pas d'informations précises. Vous connaissez ces périodes où chacun croit connaître l'ensemble de la composition, et on a généralement des surprises jusqu'au bout.
Eh bien, Charles Rodwell, merci d'être passé par les studios de Radio Rythme Globe.